Vous écoutez, on lit pour vous.
Des retombées radioactives jusqu'au Canada. Un texte de Leslie M. M. Bloom, paru le 5 août 2023 dans la presse, d'abord publié dans le New York Times. En juillet 1945, avant le premier test de la bombe atomique dans le désert du Nouveau-Mexique, Robert Oppenheimer et les autres chercheurs du projet Manhattan en savaient assez peu sur les effets de cette explosion. Le 16 juillet, lorsque l'arme à fission au plutonium a été activée au sommet d'une tour métallique de 30 mètres dans le cadre d'un essai appelé Trinity, l'explosion a été beaucoup plus forte que prévu. Le champignon radioactif s'est aussi élevé bien plus haut dans l'atmosphère que prévu, entre 15 000 et 21 000 mètres. Personne ne savait où irait toute cette radioactivité. Selon une étude diffusée le 20 juillet 2023, le nuage et ses retombées sont allés bien plus loin que les responsables du projet Manhattan ne l'avaient imaginé en 1945. Grâce à un logiciel de modélisation de pointe et à des données météorologiques anciennes récemment rendues publiques, les auteurs de l'étude calculent que les retombées radioactives de l'essai Trinity ont atteint 46 États américains, le Canada et le Mexique dans les 10 jours qui ont suivi la détonation. L'étude doit être soumise à un comité de lecture avant d'être publiée dans un journal scientifique. C'est une découverte énorme qui, pourtant, ne devrait surprendre personne, affirme l'auteur principal de l'étude, Sébastien Philippe, chercheur au programme sur la science et la sécurité mondiale de l'Université de Princeton. L'étude réanalyse aussi les retombées des 93 essais atomiques en surface au Nevada et situe sur une carte les dépôts composites de matières radioactives sur les 48 États contigus du territoire américain. L'équipe espère étudier les essais américains au-dessus de l'océan Pacifique à l'avenir. Il est difficile de calculer l'ampleur des retombées de Trinity encore présentes sur les sites de dépôt d'origine dans le pays, dit Susan Alsner, auteure de l'étude et cofondatrice de Shift 7, l'organisme qui a coordonné les recherches de l'étude. L'étude documente les dépôts tels qu'ils sont apparus au sol en 1945. C'est une image figée dans le temps, dit-elle. L'étude pourrait servir à ceux qui réclament que le gouvernement fédéral indemnise plus de personnes ayant pu être exposées aux radiations provenant d'explosions nucléaires atmosphériques. Des angles morts. La trajectoire du panache de l'explosion a été suivie par les physiciens et les médecins du projet Manhattan, mais ils l'ont sous-estimée. Ils étaient conscients des risques radioactifs, mais leurs préoccupations se bornaient aux risques aigus dans les zones avoisinant le site de l'explosion, explique Alex Wellerstein, historien du nucléaire au Stevens Institute of Technology, au New Jersey. Ils ne savaient pas que les matières radioactives pouvaient s'intégrer dans les écosystèmes, proches ou lointains. Ils ne pensaient pas vraiment aux effets de faibles doses sur de grandes populations, ce qui est exactement le problème des retombées, relate Alex Wellerstein. Dans les décennies qui ont suivi, les chercheurs voulant étudier les effets de l'essai Trinity se sont heurtés au manque de données. En 1945, les États-Unis n'avaient pas de réseau de stations pour détecter les retombées, explique Sébastien Philippe, auteur principal de l'étude. En outre, les données météorologiques et atmosphériques essentielles n'ont été collégées qu'à partir de 1948. Des essais nucléaires à partir de 1951 au Nevada, à 1000 km au nord-ouest du site de l'explosion de Trinity, ont été mieux suivis et on a pu, avec ces données, essayer de modéliser ce qui s'était passé en 1945. Mais l'analyse des effets de Trinity est demeurée ardue et frustrante. Les ensembles de données des essais atmosphériques au Nevada, qui ont eu lieu de 1951 à 1992, et les données que nous pouvions trouver pour Trinity n'étaient pas comparables, explique Mme Alsner. On ne pouvait pas les placer sur la même carte. On a continué à chercher. Déterminée à combler les lacunes, l'équipe a entamé l'étude il y a 18 mois. Sébastien Philippe, co-auteur d'une recherche similaire en 2021 sur les essais nucléaires français dans le Pacifique, a une grande expertise en modélisation des retombées radioactives. Coup de main des Européens. La chance leur a souri en mars, quand le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme a publié des données historiques remontant à 1940 sur les phénomènes météorologiques s'étendant jusqu'à 30 000 pieds ou plus au-dessus de la surface de la Terre. Pour la première fois, nous avions la reconstitution précise, heure par heure, de la météo mondiale depuis 1940, explique Gilbert P. Campo, un des co-auteurs de l'étude sur Trinity. Chaque événement qui a mis quelque chose dans l'air, peu importe ce que c'est, peut maintenant être suivi, à l'heure près, dit-il. À l'aide des nouvelles données et d'un logiciel de la NOAA, M. Philippe a pu réanalyser les retombées de Trinity. Les auteurs de l'étude reconnaissent les limites et les incertitudes de leurs calculs, mais ils affirment que leurs estimations sont prudentes et probablement basses. Les résultats montrent que le Nouveau-Mexique a été fortement touché. Les calculs montrent la trajectoire du nuage s'étendant principalement sur le nord-est de l'État, mais une partie du nuage a décrit une spirale vers le sud et l'ouest durant les jours suivant l'explosion. Selon les chercheurs, il y a des endroits au Nouveau-Mexique où les dépôts de radionucléides ont atteint les mêmes niveaux qu'au Nevada. Cette photo non datée montre une enveloppe envoyée au général Leslie Groves, responsable du projet Manhattan. Elle porte la mention écrite à la main « à montrer au Dr. Hopp ». Elle contenait de la pellicule photographique contaminée, envoyée de Rochester, dans l'État de New York, un premier indicateur que les retombées de l'essai nucléaire Trinity se propageaient dans tout le pays. Selon M. Philippe, les retombées de Trinity représentaient 87 % des dépôts totaux observés au Nouveau-Mexique, qui a également reçu des dépôts provenant des essais en surface du Nevada. L'étude a également révélé que le comté de Socorro, où a eu lieu l'essai de Trinity, se classe au cinquième rang des comtés des États-Unis pour ce qui est des dépôts par comté. Les gens vivant sous le vent à proximité de l'explosion de Trinity, au Nouveau-Mexique, n'ont jamais été admissibles à l'indemnisation fédérale adoptée en 1990 à l'intention des personnes habitant près des sites d'essais nucléaires et susceptibles d'avoir été exposées à des retombées radioactives mortelles. La loi sur l'indemnisation de l'exposition au rayonnement a permis de verser plus de 2,5 milliards de dollars aux travailleurs du secteur nucléaire dans une grande partie de l'ouest des États-Unis et aux personnes ayant vécu près du site d'essai du Nevada et susceptibles d'avoir développé un cancer ou d'autres maladies à la suite d'une exposition au rayonnement. La bombe atomique en quelques dates. Août 1939. Des physiciens, dont Albert Einstein, signent une lettre alertant le président Franklin D. Roosevelt de la possibilité de bombes d'un nouveau type et extrêmement puissantes, à base d'uranium et du risque que l'Allemagne nazie en produise. 16 juillet 1945. Explosion de la première bombe atomique, essai Trinity au Nouveau-Mexique. 6 et 9 août 1945. Bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon, entraînant la capitulation du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale. 29 août 1949. Les Soviétiques font exploser leur première bombe atomique et lancent une série d'essais. 1962. Fin des essais nucléaires atmosphériques américains et soviétiques. C'était des retombées radioactives jusqu'au Canada. Un texte de Leslie M. M. Bloom paru le 5 août 2023 dans la presse, d'abord publié dans le New York Times.
Celle qui marche sur la glace. Un texte d'Anaïs Barbeau-Lavalette paru le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Pour Anaïs Barbeau-Lavalette, ça ne fait aucun doute. L'expérience de la maternité dicte son engagement politique. Regard sur la puissance et la colère dont sont capables les mères quand il s'agit de protéger leurs enfants face à la crise climatique. L'autre matin, elle m'a demandé un sac poubelle. Elle a vidé sa chambre dedans. Les robes, les jupes, le rose, le mauve, les poupées, les licornes, les fées. Tout le féminin forcé, ostentatoire, le féminin qu'elle se fait accoler de force du haut de ses 7 ans, à la poubelle. Elle porte les cheveux courts et les genoux écorchés. Elle escalade les arbres et elle marche sur la glace. Je veux bien être une fille, mais c'est moi qui décide laquelle. Elle a la bouche pleine de confiture et déjà des phrases de grande femme. Je l'ai nourrie de récits de révoltés. Rosa Parks, Frida Kahlo, Madeleine Parent sont ses modèles. Mais sur le pas de la porte, son sac d'école sur les épaules, elle m'envoie une phrase flèche. « Je n'aurai pas d'enfant parce que les rebelles n'ont pas d'enfant. » Elle ne me laisse pas le temps d'argumenter. « Bonne journée, maman. » Elle s'éloigne, ma grande petite fille. Dans son esprit, il y a une faille. Les héroïnes ne peuvent pas être des mères. Impossible d'être à la fois habile à faire la révolution et à donner des câlins. On ne peut pas être sur tous les fronts. Maternité plus politique. Les modèles féminins dont je lui ai parlé l'attirent vers le haut, vers l'affirmation de soi, vers un idéal de justice et d'égalité. Mais elle a raison. Aucune de ces figures n'affiche sa maternité, comme si celle-ci n'était pas conciliable avec la révolte. Dans l'imaginaire collectif, soit on est mère, soit on est révolté, mais pas les deux. Ou du moins, pas en même temps. La mère protège. Elle ne peut pas se battre, faire la guerre, puisque ses bras sont occupés à bercer et son corps à envelopper. Elle n'est que le moule des braves, comme disait Napoléon. Entre Jeanne d'Arc et Hélène de Troie, en passant par Jézabel et Cléopâtre, Louise Michel et Rosa Luxembourg, les modèles de révoltés sont toujours éclairés d'un regard masculin qui les case dans un extrême ou dans l'autre. Vierge et asexuée, femme masculine ou femme fatale. L'histoire n'offre aucun exemple de mère révoltée. Elles font partie de l'histoire, mais elles manquent au récit qu'on en fait. Les anglophones distinguent pour cela les mots « story », ce qui s'est réellement passé, et « history », le récit, produit à partir d'un regard masculin. Les mères, en général, ont été peu racontées. D'abord parce qu'elles se font discrètes dans l'espace public, qu'elles y sont peu visibles et que cette absence fait partie de l'ordre des choses. On en parle peu parce qu'on les voit peu. On les imagine aisément derrière les portes closes où elles font pousser les enfants. Simone de Beauvoir l'écrivait, en substance, dans Le deuxième sexe en 1949. Trop souvent, les femmes perpétuent l'espèce comme le font les bêtes. La maternité les emprisonne dans l'immanence et les empêche d'accéder à la transcendance. Si la figure maternelle semble absente de l'histoire, notamment de celle des révoltes, les sources jaillissent pourtant au regard qui les cherche. Des universitaires se sont récemment intéressés à différents exemples de participation des mères au sein d'actions locales et dans de larges mouvements sociaux où la maternité sert de catalyseur à l'engagement politique. Ces études mettent en lumière certaines formes d'activisme précisément issues de la transition qui se produit lorsqu'une personne devient mère. Partout dans le monde, des femmes se mobilisent aujourd'hui autour de cette connexion essentielle. Nous sommes des mamans. Au Texas, les Mothers Against Greg Abbott s'organise pour contrer l'élection du candidat républicain. En France, le mouvement Front de mère milite contre les violences que subissent les enfants. Dans les territoires qu'occupe Israël, les Maxam Watch se postent aux checkpoints et veillent au passage sécuritaire des Palestiniens-Palestiniennes. Des mères d'allégeances politiques et de classes sociales diverses s'unissent au nom de leurs enfants. Les autres distinctions ne comptent plus. Riche, pauvre, urbaine, rurale, jeunes, vieilles, peu importe. Elles sont mères et c'est à ce titre qu'elles réclament tour à tour un meilleur contrôle des armes à feu, la sécurité autour des écoles et à l'intérieur de celles-ci, la fin de l'abus de pouvoir sur la population civile. Le regard de ces mères devient celui de toutes les mères et le monde, pour un temps, semble se pacifier. Le concept de maternité politique vient de naître et il fait trembler les forces de la tyrannie et du statu quo. Des mères mettent au monde, ensemble, de nouveaux espaces de liberté. Les ours. On se souviendra des guerres sales, latino-américaines des années 1970, en Argentine, au Mexique, au Salvador, où des mères ont exigé des explications quant à la disparition de leurs enfants. Bien que les forces en place aient violemment cherché à les faire taire et que certaines d'entre elles soient encore portées disparues, les madres ont persisté en déclarant que leur activisme était dicté par les exigences morales de la maternité, à savoir la protection et la défense de leurs enfants. C'est aussi pour la protection et la défense des enfants face à la catastrophe climatique que nous, les mères, nous levons aujourd'hui. La santé et la sécurité de ceux et celles que nous avons mises au monde sont menacées, et c'est entre les murs de nos maisons que se vit d'abord leur angoisse. Les mères accueillent la charge de colère et la peur paralysante des enfants. Des sentiments neufs que nous domptons en même temps qu'eux. Nos petits cherchent un refuge. Ils sont, comme nous, déstabilisés par l'ampleur de la crise climatique et le monde qu'on leur annonce. Mais c'est devant la troublante lâcheté des dirigeants, encore trop souvent des hommes, qu'ils restent sans voix. C'est pour eux un non-sens absolu. Les grands ne bougent pas, les grands les laissent seuls. Dans le vaste dessein que les enfants se faisaient du monde, les personnes qui devaient normalement les protéger restent inactives. Elles ont les solutions en main, mais elles ne font rien. Une recherche récente effectuée auprès de 10 000 enfants dans une dizaine de pays pointe leur confusion. L'inaction des leaders gouvernementaux est pour eux trop lourde à accepter, impossible à comprendre. On se sent carrément poussé dans le précipice par les décideurs, rapporte-t-il. Et ils n'ont pas tort. En 2010, l'Organisation mondiale de la santé et le Programme des Nations unies pour le développement estimaient que les enfants subissent dans une mesure de 88% le fardeau des maladies liées au changement climatique. Ils sont aussi plus à risque de souffrir des impacts psychosociaux qui y sont liés. Troubles d'hyperactivité avec déficit de l'attention, troubles du spectre de l'autisme, déficit cognitif, troubles de l'humeur, schizophrénie, etc. Plusieurs vivent des épisodes d'anxiété et éprouvent un sentiment de catastrophe imminente. Une enquête de la Thomson Reuters Foundation révèle qu'un enfant sur quatre est si préoccupé par les changements climatiques qu'il croit que le monde prendra fin avant qu'il n'atteigne l'âge adulte. Si cette inquiétude prend autant de place dans la vie des enfants, c'est d'abord parce qu'ils réfléchissent davantage à leur avenir que nous, adultes, qui sommes dedans. Comme ils ont aussi moins d'autonomie et de contrôle sur leur vie, ils se sentent à la remorque de nos réactions. Il est vertigineux pour eux de constater que nous laissons les choses aller. Et c'est ce vertige que les mères embrassent. Nous nous soulevons solidaires. Nous l'aurons ensemble, la peur. Nous marcherons devant vous pour qu'elle nous happe en premier. Nous serons vos boucliers, vos mamans ours. Vous écoutez « Celle qui marche sur la glace ». Un texte d'Anaïs Barbeau-Lavalette paru le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau Projet. La réparation du monde. J'ai récemment rencontré une jeune fille brillante qui se destinait à de grandes études et qui venait du jour au lendemain de tout abandonner pour se vouer à l'éveil des consciences face à l'urgence climatique. À 16 ans, elle était limpide. À quoi bon étudier si le monde dans lequel je vieillis se détruit? Malgré sa lucidité, elle prenait soin de sa petite flamme. J'ai encore de l'espoir, jusqu'en 2030. Je consacre tout mon temps à tenter d'éviter la collision. Si on rentre dans le mur en 2030, je n'aurai pas d'enfant et je ne retournerai pas aux études. Si on l'évite, et c'est ce à quoi je m'applique tous les jours, je pourrai envisager d'autres projets de vie que la militance. Le poids de la réparation du monde ne devrait pas incomber à nos enfants. Ils pèsent trop lourd sur leurs épaules en construction. Prendre l'impuissance par le collet. Je suis la mère de trois paires d'épaules alourdies par l'ampleur de la tâche. Tous les jours, depuis 12 ans, je colmate les fêlures provoquées par l'irresponsabilité de nos gouvernements. À coups d'embrassades et de petites fabriques d'espoir, je rapièce mes enfants. Je suis dentelière du quotidien. Je ne cache pas la laideur, mais je célèbre la joie jusque dans l'infiniment petit. J'en fais une mission. Un matin de l'hiver 2020, mes enfants m'ont regardé plus sévèrement qu'avant. C'était un de ces matins où le journal annonce la disparition d'une espèce et qu'à la page d'à côté, les gouvernements rassemblés pour nous sauver repartent sans idées neuves, bredouilles et lessivées. « Mais qui nous protège alors ?» m'a demandé la plus petite. 3 points de suspension. 3 petits points comme des trous noirs. Je ne pouvais pas répondre. C'est eux. Ni, c'est moi. Mes enfants savaient lire, maintenant, et ils n'étaient plus dupes. Mon amour n'allait rien changer à la lâcheté des décideurs. Mes bras enveloppants ne feraient plus barricade ni barrage. Ma posture poétique et toutes mes loupes à beauté ne suffiraient plus. Cette fois, c'est de l'autre côté de nos murs que j'allais devoir être une mère. Ce matin de l'hiver 2020, je me suis soulevé. Nourri par une colère amoureuse, j'ai rencontré des centaines d'autres mères, dont la militante écologiste Laure Varidel, qui n'en pouvait plus de ravaler la rage, épuisée de chercher mots et caresses rassurantes à l'ombre des géants irresponsables. Ainsi, nous avons créé le mouvement « Mères au front ». Nous sommes aujourd'hui des milliers sur le territoire québécois et au-delà. Notre désarroi est notre moteur. Nous berçons d'un bras et nous brandissons de l'autre. Notre activisme est le prolongement viscéral d'un amour inconditionnel. La façon dont j'aime mes enfants est à la fois tendre et violente. Je tuerais pour les protéger. C'est à cet amour volcanique que je me suis connecté. C'est lui qui les protégera le mieux. Imbriqué dans cet amour-là, il y a la révolte. Une révolte surpuissante parce qu'intime. Une révolte unique et immortelle. Nous sommes amoureusement en tabarnak. Et nous exigeons des gestes courageux et responsables de la part de ceux qui tiennent les rênes du pays. Le 8 mai 2022, à l'occasion de la fête des mères, nous étions des milliers de femmes en colère, mères et non-mères, en marche dans les rues de Québec. Mères au front et ma place au travail s'unissaient pour la marche du pain et des forêts, un écho, un hommage à la marche du pain et des roses, portée des années plus tôt par une mère révoltée, Françoise David. Manifeste des mères au front. Nous sommes mère et grand-mère par le sang et autrement. Nous nous levons pour protéger nos enfants. Nos enfants qui ne veulent plus faire d'enfants. Nos enfants qui appellent à l'aide. Nos enfants, volcans de promesses, que nous avons invités dans cette vie en leur parlant de beauté, de douceur, de vertige, de possible. Nous sommes celles qui mettent au monde, celles qui nourrissent et celles qui soignent. Nous sommes fiers et en colère, aimantes et décidées. Nous exigeons des gestes forts et immédiats, de la droiture et du courage politique. Nous sommes de partout, nous sommes innombrables, d'un océan à l'autre et bien au-delà. Nous sommes mères loups, mères caribous, mères outardes et mères carcajou. Nous sommes la mère Beluga qui meurt en mettant bas et la mère kangourou qui fuit le brasier. Nous sommes toutes les mères. Nous sommes aussi la vôtre. Nous sommes en colère. Et vous savez que notre colère est juste. Nous voulons un avenir. Nous voulons que la vie gagne. C'est notre devoir de la protéger et aussi le vôtre. Nous allons tout faire pour. Nous bercerons d'un bras et brandirons l'autre. L'amour de nos enfants est notre arme de construction massive pour la suite du monde. Maternité plus féminisme. Simone de Beauvoir écrivait « Si la femme émancipée échappe à sa nature, elle se retrouve aux prises avec sa liberté. Tel est le sens de la révolution maternelle. » La maternité, longtemps perçue comme une forme d'esclavage de la femme, était jusqu'à récemment inconciliable avec le combat féministe. Les mères étaient prisonnières de leurs conditions. Mais il n'est pas abusif de dire qu'aujourd'hui, la maternité est devenue un terreau fertile. L'expérience de la maternité se pose comme la condition nécessaire et suffisante pour s'ériger, pour colérer, pour s'opposer. Elle guide et inspire la conscience politique des femmes, tout comme l'expérience paternelle inspire celle des hommes. Nous sommes mères, donc nous nous révoltons. Nous arrivons à cette permission que nous nous donnons enfin, celle de la colère, celle de la puissance. Elle n'est ni douce ni belle, elle peut être forte, laide et maternelle pourtant. Il faudra s'ensauvager davantage, puisque les marches ne suffisent pas. Il faudra désobéir par amour, il faudra des mères désobéissantes. Il en va de l'intérêt des générations montantes. Ma fille revient de l'école. Je la regarde venir vers moi. Elle a le pas bien planté, la démarche guerrière, enracinée. Je me battrai à l'infini pour lui éviter la noyade, pour préserver la glace sur laquelle elle marche. Je sais qu'elle connaît déjà le chemin de la colère. C'est un sentiment apprivoisé qu'elle laisse exister aussi fort que la joie. C'est bien. C'est vivant. Je voudrais lui dire merci d'avoir dégagé le mien, mon chemin de colère. Je l'emprunterai maintenant plus souvent, grâce à elle. Anaïs Barbeau-Lavalette est autrice, cinéaste et militante. Son dernier roman, Femme fleuve, est paru à l'automne 2022 au Marchand de feuilles. Dans L'hospitalité à ce qui vient, son dialogue avec Marie-Hélène Voyer a été publié dans Nouveau projet, numéro 21. C'était « Celle qui marche sur la glace ». Un texte d'Anaïs Barbeau-Lavalette, paru le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau Projet.